que de sa compétence à exercer le ministère. La mise à part de David, c'est certainement un beau sujet de célébrer la confiance que le Seigneur et l'Église lui communiquent. Mais aussi, le fait de recevoir cette confiance-là du Seigneur et de l'Église, ça l'implique, ça comporte des responsabilités particulières pour l'ouvrier. Des responsabilités particulières, on va en voir après-midi, au sujet où on va s'adresser particulièrement à David. Des responsabilités de pasteur pour paître les brebis, prendre garde du troupeau. Des responsabilités d'ancien pour offrir sagesse, discernement aux croyants. Des responsabilités d'évêque pour veiller, surveiller à la bonne marche de l'Église. Mais la mise à part d'un ouvrier comporte aussi des responsabilités pour nous, pour l'Église locale. On a prié que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. On prie pour ça. Le Seigneur dit, priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. On prie pour ça, le Seigneur en donne. Dieu a répondu. Et maintenant, en confirmant son appel, on doit considérer David et agir à son égard comme tel. Quelles sont alors ces responsabilités des croyants et de l'Église envers ses ouvriers, envers ses anciens? J'aimerais qu'on tourne dans 1 Timothée, chapitre 5, les versets 17 à 25. Dans 1 Timothée, Paul est en train d'enseigner son protégé, Timothée. Il l'enseigne sur son rôle pastoral envers les anciens de l'Église d'Éphèse. Il y a déjà des anciens à Éphèse et Paul va enseigner Timothée sur son rôle pastoral envers eux. Et il va considérer dans 1 Timothée chapitre 5, les versets 17 à 25, cinq responsabilités que j'aimerais rapidement identifier et partager. Mais prions d'abord si vous avez trouvé 1 Timothée chapitre 5. Seigneur, on s'approche de toi ce matin encore, nous ouvrons ta parole et comme nous t'avons adoré précédemment de façon verbale, nous voulons te dire merci pour le fait que c'est toi qui bâtis ton Église. Merci pour le fait que tu aies appelé David au ministère. Merci Seigneur d'avoir donné à l'Église locale de contribuer à ton œuvre dans sa vie. Merci Seigneur pour le leadership de David. Merci pour son influence parmi nous. Et nous te prions ce matin, Seigneur, que tu nous donnes de l'honorer. De t'honorer aussi, mais de l'honorer en confirmant ton appel sur sa vie. Et Seigneur, que nous puissions, nous aussi, accomplir nos responsabilités envers l'ouvrier que tu as placé à l'Église ici. Alors Seigneur, dirige-nous dans ta parole. Donne-nous de nous engager derrière ces enseignements, ces recommandations, pour ta gloire, pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Vous avez trouvé 1 Timothée, chapitre 5. Je vais lire les versets 17 à 25. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Un texte qu'on ne lit pas souvent un dimanche matin, mais que j'aimerais soutirer cinq responsabilités de l'Église face à un ancien. D'abord, les désigner. Désigner des anciens. Le texte commence déjà avec le fait qu'il y a des anciens à Éphèse. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Il y a déjà des anciens à Éphèse. Il y a déjà la présence. Lorsque Paul écrit cette lettre-là, il y avait déjà plusieurs anciens qui avaient été établis, je dirais, tôt dans l'église d'Éphèse. Au début de 1 Timothée, il dit « Je t'ai laissé à Éphèse parce que pour aider à des personnes qui enseignent des fausses doctrines à venir en échec à ces personnes-là. » Mais très tôt, Paul avait l'habitude, quand ils implantaient une église, d'établir des anciens. Il demeurait en général, Paul, que peu de temps à implanter une église locale, puis il la quittait, puis il désignait des anciens avec la participation des croyants. Par exemple, dans son premier voyage missionnaire, si vous tournez dans Actes 13, je vais citer plusieurs versets ce matin, je ne sais pas si on aura le temps d'aller voir, mais Actes 13, 14, c'est l'histoire du premier voyage de Paul, premier voyage missionnaire, et à travers ce voyage-là, il passe rapidement à travers des villes, Lystre, Icône, Derbe. Actes chapitre 14, verset 23, puis un petit peu avant, il nous mentionne qu'il a évangélisé, là, il a fortifié les croyants, il a exhorté les croyants, mais il a aussi désigné des anciens, ou littéralement, il a fait élire des anciens. Actes 14, 23, c'est ce que la Bible du Sommeur traduit aussi, il fait élire des anciens. Le mot qu'il a pour faire élire, kairotoneo, il a fait du tonus à la main. Il a fait faire les gens mettre du tonus à la main. Il a fait élire, il a fait élever des mains pour dire qui est là. J'imagine qu'il n'a pas resté tellement longtemps à Lystre et à Derbe, alors il devait avoir de ses pères de famille qui étaient là, et parmi ses pères de famille, il les établit comme dirigeants de l'Église, comme anciens. Il a demandé aux gens, qui sont ces personnes irréprochables, qui sont ces personnes qui sont des maris fidèles, qui sont ces personnes qui sont respectées parmi leur famille. Et il les a établis à travers la coopération, la collaboration des autres croyants. Le mercredi, présentement, on est à regarder l'église de Thessalonique, l'épître aux Thessaloniciens. À Thessalonique, c'est la même chose. Paul a resté que quelques semaines. Il nous mentionne qu'il a prêché là 3 sabbats, puis que tout de suite, la pagaille a pris, puis il était obligé de se sauver. Alors, il n'a pas resté longtemps. Mais dans son deuxième voyage à Thessalonique, il reste quelques semaines, puis déjà, des dirigeants sont établis dans l'église naissance. Alors, quand il écrit à 1 Thessalonicien, par exemple, au chapitre 5, des versets 12 à 13, il encourage les Thessaloniciens à manifester beaucoup de considération et beaucoup d'affection à ceux qui les dirigent dans le Seigneur. Ils ont déjà des dirigeants dans le Seigneur, ils ont déjà des anciens. Dans son troisième voyage, Paul a l'opportunité de rester plus longtemps à Éphèse. Il demeure là 3 ans. Il a beaucoup de succès avec l'Évangile. L'Évangile s'est répandu non seulement à Éphèse, mais il dit dans toute l'Asie. Puis après ça, il fait un petit détour, puis il repasse par Éphèse avant de retourner en Palestine. Puis lors de son dernier passage, on le trouve dans Actes au chapitre 20, il va s'adresser il fait venir à Éphèse les anciens de l'Église et il s'adresse à eux. Il y a déjà des anciens à Éphèse. En réalité, Paul, il recommandait qu'il y ait des anciens dans chaque ville, dans chaque église locale. Quand il écrit sa lettre à Tite, il lui demande d'établir dans chaque ville de la Crète des anciens. S'y trouve quelques hommes irréprochables, fidèles à leur épouse, respectés de leurs enfants. Tite, chapitre 1, versets 5 et 6. Et de cette même manière-là, nous avons appelé David, comme David Chouinard, comme serviteur en formation. Nous l'avons appelé à servir. Et puis après ça, on l'a désigné tout de suite, assez tôt, comme un ancien, comme un pasteur. En 2003, déjà 4 ans, en 2003, pour qu'il serve dans l'église locale. C'était la première responsabilité de l'église, reconnaître les dons et désigner parmi ces gens que Dieu a donné des dons spirituels, désigner des anciens. Le texte continue, et là, il nous dit que ces anciens-là qui ont été désignés, on a besoin de les honorer, de honorer les anciens qui dirigent bien. En réalité, le texte nous dit que ceux qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Il nous mentionne qu'il y a divers types d'anciens, finalement. Mais le texte n'est pas en train de dire il y a ceux qui dirigent bien, puis il y a ceux qui dirigent mal. Hein? Mais à part celui qui dirige bien, David en met à fond. C'est pas la notion de ceux qui dirigent bien versus ceux qui dirigent mal. Mais le texte dit plutôt ceux qui dirigent bien, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement, comme dit la Bible du Sommeur. Honorer particulièrement ceux dont la tâche principale est la prédication et l'enseignement. Tous les anciens, la Bible mentionne, ils ont une part d'enseignement. Dans Tite, il nous est dit que chaque ancien doit être attaché à la vraie parole pour être capable d'exhorter selon la saine doctrine, pour être capable aussi de réfuter des contradicteurs. Il faut qu'ils soient capables d'enseigner. Mais tous n'ont pas la charge de l'enseignement dans l'Église, la charge de la prédication. Certains hommes matures peuvent avoir d'autres ministères importants, d'autres responsabilités dans l'Église. Et tout en, dans certains cas, particulièrement au premier siècle, ils pouvaient même être des anciens qui occupaient d'autres emplois dans la société en général. Mais ils s'occupaient dans l'Église de divers ministères. Et Paul dit, honore les anciens, que ceux qui dirigent bien, particulièrement les anciens qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. De ces personnes-là, il nous dit de l'honorer. Honorer, ce n'est pas juste de pencher la tête puis de baiser la bague. T'en as-tu une bague? Oui, t'en as une. c'est pas cette notion-là de honneur qui est mentionnée. Mais particulièrement, il mentionne ici honorer dans le sens du soutien financier. Les anciens ou les pasteurs qui œuvrent à temps plein dans le ministère doivent être honorablement soutenus financièrement, de manière à ce qu'ils peuvent se concentrer à leur tâche et que l'argent ne soit pas constamment une contrainte pour le ministère pastoral. J'aimerais m'investir davantage, mais il faut que je mette du beurre de pinot sur mes toasts, fait que je peux pas être là, je dois gagner ma vie aussi. Dieu dit, honore, aie un soutien financier honorable pour celui qui est en ministère à plein temps à l'œuvre pastorale. De nos jours, comme au jour de Paul, la rémunération de l'ouvrier correspond à son travail. Jésus disait dans Luc, chapitre 10, verset 7, qui est mentionné ici, « L'ouvrier mérite son salaire. Tu travailles à temps plein, tu donnes ta vie au ministère, tu devrais être soutenu par l'Église locale. » La notion de faire vivre un pasteur dans la pauvreté pour qu'il apprenne à vivre par la foi puis dans l'humilité, ce n'est pas à l'honneur de l'Église locale puis ce n'est pas enseigné non plus dans les Écritures. La Bible a dit « honorer, soutenez financièrement les ouvriers ». L'Église locale doit se faire un honneur d'honorer financièrement ses ouvriers par respect pour l'œuvre excellente que Dieu leur a donnée. Paul, il va même à dire que, même dans la loi de Moïse, là, quand on utilisait un bœuf pour faire moudre le grain, vous avez cette notion-là, on plaçait le grain, puis là, on mettait une grosse meule, une meule de moulin, une meule qui allait écraser le blé, puis on faisait tourner ça par un bœuf qui, toute la journée, tournait ça. Alors, il y avait du grain en abondance, il y avait de la farine en abondance, il y avait de la nourriture pour le bœuf au max. Savez-vous qu'est-ce que les propriétaires étaient tentés de faire quand ils tournaient avec ça? Museler le bœuf pour qu'il en mange trop, pour qu'il en reste pour tout le monde, pour que les bénéfices soient au maximum. Et qu'est-ce que Moïse disait? Si tu as un bœuf qui participe à l'abondance de blé pour la maison, tu ne l'emmuseleras pas. Tu vas lui donner la possibilité de jouir de l'abondance que tu es en train d'avoir. Paul est en train de citer ce verset-là ici. « T'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il est en train de moudre le grain. Tu vas honorer l'ouvrier à cause de son œuvre, à cause de son travail aussi. Tu vas l'honorer financièrement. » L'abbé parle de ce double honneur. La notion de double honneur, je ne pense pas qu'elle signifie nécessairement la double rémunération, le double du salaire de tout le monde. Je pense pas que c'est ça que ça... Je pense pas nécessairement que c'est ça que ça veut dire. Mais plutôt, je pense que c'est une estime particulière, par exemple. Une estime particulière tant au niveau du salaire que de l'œuvre qu'il est en train de faire, l'œuvre excellente du dévouement de l'ouvrier au ministère. Je vous dis ça parce que j'ai la liberté de le dire à Beauport. David et moi, je suis persuadé que nous rendons grâce à Dieu pour la manière dont l'Église de Beauport prend soin de nous. Je ne dirais pas ça si ce n'était pas... peut-être que je le dirais aussi, mais on rend grâce à Dieu pour le soutien financier que l'Église de Beauport offre à ses ouvriers. Mais c'est une responsabilité de l'Église. Désigner des anciens, honorer les anciens en les soutenant financièrement, en ayant un respect pour leur œuvre. Et troisièmement, protéger la réputation des anciens. Il dit au verset 19, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Dieu veut que nous protégions la réputation des anciens. Voyez-vous, le pasteur, l'ouvrier, l'ancien est un homme qui est mis en évidence. Il est un homme public. Il est un homme qui est constamment placé sous les réflecteurs à la vue de tous. Et si on pense que c'est bon pour l'estime de soi du pasteur, peut-être que ça, c'est probablement vrai, mais en même temps, les réflecteurs mettent aussi en évidence les imperfections du monsieur en avant. Ils mettent en évidence, ils rendent les faiblesses humaines de très, très évidentes. Voyez-vous, quand les gens passent à la TV puis que les réflecteurs sont dessus, savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec la personne qui est devant? Il la maquille, il la masse, il cache toutes ses petites imperfections-là. Tu te maquilles-tu souvent tout le matin? Moi, je ne me maquille pas quand je viens ici. Et pas juste extérieurement. Mais voyez-vous, les ouvriers sont souvent sans maquillage devant. Et vous pouvez voir, oh, regarde ça, pas juste l'apparence extérieure, mais les faiblesses, les fautes, les péchés même des personnes en avant sont facilement identifiables parce que les réflecteurs sont sur eux. Et Paul dit à Timothée, protège la réputation des anciens. La réputation de l'ouvrier, comme Nancy l'a chanté, comme on le voit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, d'être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, d'être un modèle de ces choses-là. Pour moi, en tout cas, ça constitue un défi qui est au-delà de mes forces humaines. Ça constitue un défi qui exige l'intervention divine dans ma vie de façon constante. J'ai besoin de Dieu. C'est facile de pointer dans ces cinq domaines des imperfections, des difficultés. Ça serait facile d'être pointé. Alors, l'ouvrier est donc facilement attaquable. Tant par l'adversaire, l'adversaire aime ça aussi, attaquer l'ouvrier, tant par l'adversaire que par les croyants. L'adversaire, lui, il veut disperser le troupeau en attaquant le berger. Et je dirais que malheureusement, les croyants n'ont pas toujours beaucoup de tolérance envers leur ouvrier. S'ils voient un petit bouton sur le bord, ils vont lui dire tout de suite. S'ils voient un petit bouton dans leur caractère, ils vont lui dire tout de suite, souvent. Et Paul dit, protège la réputation des anciens. En réalité, l'ouvrier est un homme qui a besoin de prière, est un homme qui a besoin d'encouragement. Parce que voyez-vous, quand vous priez pour un ouvrier, vous êtes en train de le placer devant le Seigneur. Et vous êtes en train, vous aussi, de vous placer en sa compagnie devant le Seigneur quand vous priez pour l'ouvrier. La Bible dit de prier pour vos ennemis. Priez donc votre pasteur aussi. Parce que voyez-vous, si vous priez pour vos ennemis, probablement vous allez être un peu plus tolérant pour eux. Parce que vous allez regarder votre cœur, puis vous allez les placer devant le Seigneur. Priez pour vos ouvriers. Priez. Et ça va vous aider, puis ça va les aider à être à la hauteur de vos attentes. Puis à demander au Seigneur à ce qu'il l'élève à la hauteur des attentes du Seigneur. Priez pour vos ouvriers. Encouragez-les plutôt que les critiquer. Et ça va devenir un puissant fortifiant pour l'ouvrier. La Bible a dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Et savez-vous quoi? Les ouvriers ont besoin de beaucoup d'amour. C'est ce qu'un Thessaloniciens 5 dit. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Et si vous les aimez beaucoup, bien, vous serez peut-être moins prône à attaquer leur réputation. Parce que voyez-vous, l'ouvrier est un homme qui doit être de bonne réputation. Tout comme les dirigeants d'un pays ou d'une entreprise, on doit protéger la réputation des personnes publiques, à moins, bien entendu, que la faute qui déshonore le témoignage public de l'Église ne soit confirmée par plusieurs témoins. Des témoins, par exemple, pas des rapporteurs, pas des gens qui ont entendu l'autre, qui a entendu l'autre, qui a entendu que le pasteur faisait ça. Ça s'appelle un rapporteur, c'est pas un témoin. Mais s'il y a deux ou trois témoins d'un péché qui persiste, oui, allez voir l'autorité et que ça puisse être confronté. Si l'accusation est confirmée, bien, une enquête devrait être entreprise pour déterminer soit le péché de l'ouvrier, soit peut-être aussi la mauvaise intention de l'accusateur. Mais les deux seront présentés. Et bien entendu, l'ouvrier qui reconnaît son péché, le péché avoué et abandonné, la Bible dit, obtient miséricorde. Le pardon, voyez-vous, il est offert aux ouvriers aussi. Peut-être qu'on aura besoin d'un peu de temps pour rétablir la confiance, mais le pardon est ouvert aussi aux ouvriers. Désigner des anciens, honorer les anciens, protéger la réputation des anciens, mais discipliner aussi les anciens qui sont indignes, nous dit les versets 20, 21 et 23. Si évidemment, après enquête, après confirmation, l'ouvrier persiste dans son péché, il doit lui aussi être discipliné par l'Église. Il n'y a pas un croyant, pas même le pasteur qui est intouchable, pas même le pasteur est au-dessus des préceptes bibliques. Mais pourtant, Paul dit à Timothée, quand cette discipline publique d'un ouvrier doit être faite, on doit s'assurer qu'elle n'est pas faite à la légère. Avez-vous remarqué les mots qu'il emploie? Verset 21, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus. Fais attention, Timothée, de la discipline, de pas agir avec discipline à la légère. Ni avec préjudice contre l'ouvrier, ni avec un penchant pour l'ouvrier. Il dit d'agir, d'observer ces choses sans prévention. Je ne sais pas pourquoi ils ont employé le mot prévention en français. Là. Le mot est proscrimatos, et le verbe critiquer, qui est le verbe juger, est pros pour lui, contre lui. Alors, sans avoir un jugement contre. Avant de partir. Et sans plus, avec faveur, le mot qui est là, c'est un prosclicis qui est penché de ce bord, du bord-là. Alors, si tu as à discipliner, à juger un ouvrier, il ne faut pas que tu aies un préjugé contre ou un penchant de son bord. Fais attention. Si tu as besoin de discipliner un ouvrier, que ce ne soit pas fait à la légère, que ce ne soit pas fait avec préjudice, que ce ne soit pas fait avec un penchant pour lui. Le pasteur et l'Église doivent alors agir avec courage dans de telles situations. Et puis Paul lui dit à Timothée, si dans ces moments de tension, je ne sais pas, les ouvriers, quand il y a des moments de tension, de discipline, David dort pas gros, puis moi non plus habituellement. Tu sais, il y a de la tension, ça pèse ici. Puis Paul, il dit à Timothée, garde, s'il y a tant de tension que ça, là, prends donc un petit peu de vin, ça va t'aider pour ces moments-là, là, ça va relaxer un petit peu tes fréquentes. Je pense que le texte est là, il n'y a pas un enseignement sur l'alcool à ce moment-là, mais il a dit, garde, là, dans ces situations-là, là, tu sais quand ta santé comment aller, prends donc un petit peu de vin, ça va te faire du bien. Ça va soulager tes malaises. Discipliner les anciens indignes, oui, mais aussi confirmer la vocation des anciens qui sont compétents. Et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec David. Non, on ne l'a pas discipliné parce qu'il est un ancien indigne. On va confirmer sa vocation parce que c'est un ancien qui est compétent. Et on le fait, la Bible dit, par l'imposition des mains, verset 22, n'impose pas les mains à personne avec précipitation. après avoir vu l'ancien à l'œuvre au sein de l'Église, après avoir constaté les fruits de son ministère, il est du devoir de l'Église de le reconnaître, de reconnaître cet ouvrier-là comme une personne don, en confirmant son appel, en le mettant à part pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Et par l'imposition des mains, ce que nous allons faire après-midi, nous allons confirmer publiquement cet appel de Dieu et la compétence de l'ancien après un certain temps qu'il a exercé dans l'exercice de ses fonctions. Et cette imposition des mains n'arrive pas soudainement dans le Nouveau Testament comme ça. Elle est établie dès l'Ancien Testament. Je pensais à Josué cette semaine. Josué a été sélectionné dans le leadership d'Israël très tôt. Ils ont quitté l'Égypte et Josué était tout de suite pris dans le leadership d'Église. Quand ils ont été attaqués par les Amalécites, Moïse y était prié dans le désert. Puis qui était à la tête des armées pour aller attaquer les Amalécites? Josué. Il était déjà un ancien. Il était déjà impliqué dans le leadership d'Israël. À un moment donné, Moïse va pour aller chercher les tables de la loi sur le mont Sinaï. Qui l'accompagne? Josué l'accompagne. Il l'accompagne sur le mont Sinaï. L'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Nombre, chapitre 27, les versets 18 à 23, elle nous dit que l'Esprit de Dieu reposait sur Josué. Et puis après avoir exercé son ministère, Moïse l'a confirmé comme son successeur devant le souverain sacrificateur et tout le peuple. Et comment il a fait cette confirmation-là? En lui imposant les mains pour confirmer son appel, pour confirmer sa compétence au leadership d'Israël. Le texte de 1 Timothée, chapitre 5, nous dit que de prendre le temps avant d'imposer les mains à un ancien. Parce que le temps et la vérité, ça va ensemble. Paul rappelle à Timothée de laisser du temps dans l'exercice du ministère de l'ancien pour voir les fruits de son ministère avant d'aller de l'avant avec sa mise à part. Voyez-vous, dans l'église d'Éphèse, la difficulté primordiale de l'église d'Éphèse, elle éprouvait des difficultés justement parce qu'il y avait plusieurs anciens qui étaient là, qui n'étaient ni appelés de Dieu, ni compétents. Paul l'avait déjà prédit quand il était arrêté à Milet et avait fait venir les anciens de l'église. Il avait dit, il va avoir des loups cruels qui vont entrer. Il va avoir des gens qui vont commencer à enseigner des mauvaises choses puis à attirer des gens. Il va avoir des anciens incompétents dans l'église d'Éphèse. Il avait déjà prévu. Alors, précipiter la mise à part d'un ancien sans avoir de fruits, Paul va mentionner, ça va être participer à ses œuvres négatives. La patience, le discernement et la prière sont nécessaires avant l'imposition des mains. Je pense à Pierre, un exemple du Nouveau Testament. Jésus l'a appelé. Il a dit, viens, suis-moi. Déjà parti du leadership avec Jésus. Jésus l'a formé pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, il l'a encouragé. Il l'a exhorté. Il l'a même confronté. Des fois, il a dit des mots assez directs à Pierre. Là. Il l'a confronté. Il a prié pour lui. Souvenez, dans la chambre haute, il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Puis quand tu vas te relever, ben fortifie les frères. Il a prié pour sa foi. Il a prié pour sa compétence. Pierre a tombé. Et sur les bords du lac de Galilée, après sa résurrection, Jésus l'a rencontré à nouveau. Et il a confirmé son appel. M'aimes-tu? Tu veux-tu me suivre encore? Et il a confirmé sa compétence. Paix mes agneaux, paix mes brebis, il va dire. Pierre a été restauré, il a été encouragé, il a été relancé comme personne don pour l'établissement de l'Église. Alors l'Église, elle a la responsabilité de prier que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. L'Église, les croyants doivent reconnaître les dons spirituels des croyants et inviter ceux qui aspirent au ministère pastoral à être formés et à servir parmi eux. Et parmi ces gens qui aspirent au ministère, l'Église locale doit désigner des ouvriers comme anciens. Puis après un temps de probation, elle doit confirmer publiquement son appel, confirmer publiquement sa compétence en le mettant à part pour l'œuvre de Dieu. Et ça va être notre privilège pour aujourd'hui. Après avoir invité David, comme serviteur en formation, après l'avoir appelé comme pasteur, après avoir laissé le temps manifester la réalité de son appel et de sa compétence, ça va être notre privilège aujourd'hui de célébrer le fait que Dieu l'a mis à part en lui imposant les mains. Les membres du conseil vont le faire avec d'autres anciens mis à part dans notre association d'église. Vont venir, vont l'entourer, vont placer ses mains sur lui et vont prier pour lui. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Et c'est aussi l'occasion pour nous, en tant qu'église locale, de s'engager envers David, avoir de la considération pour lui, avoir beaucoup d'affection pour lui, à cause de l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Et ainsi, en tant que communauté chrétienne, on participe à l'œuvre de Dieu. On prie Dieu pour des ouvriers, Dieu répond et on les envoie dans la moisson. Je remercie Seigneur pour l'Église de Beauport, qui est une Église qui recherche à identifier les dons parmi les croyants et à les valoriser, à former des personnes pour l'œuvre du ministère. Puis après ça, confirmer publiquement l'œuvre de Dieu dans leur vie. Oh Seigneur Dieu, merci pour la joie que tu nous donnes d'honorer David, d'être reconnaissant pour ton œuvre dans sa vie, et Seigneur Dieu, de marcher avec lui, de l'encourager, de prier pour lui. Seigneur, merci pour ta grâce à son égard. Puisses-tu l'utiliser maintenant, à continuer de l'utiliser avec encouragement à l'œuvre dans laquelle tu l'as déjà appelé. Et on te prie ces choses avec la joie de te voir à l'œuvre dans tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.